Commentaire sur l'épître de Paul aux Romains 5.1 au 11. Quelques effets de la justification. 5.1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. 3. Bien plus, nous glorifions même cette justification par la foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Il a été livré et ressuscité à cause de nos péchés. Il n'y aurait pas eu de justification sans la résurrection parce qu'il n'y aurait pas eu de foi sans la résurrection. Elle est la preuve que Dieu accepta le sacrifice expiatoire de Jésus et que Jésus était réellement celui qu'il prétendait être. Vu d'une autre manière, la résurrection était nécessaire puisqu'il fallait que le sang de Jésus soit offert dans le sanctuaire céleste, Hébreux 9.11, 12.24-28. Tout comme le sacrificateur tue la victime hors du temple même, et parfois hors du camp, mais apporte le sang seul dans le lieu très saint, de même le sang de Jésus devait être présenté par notre souverain sacrificateur, encore Jésus, dans le sanctuaire. Voir aussi Hébreux 13.11 au 12, il est aussi vivant pour servir éternellement comme notre grand prêtre, afin d'intercéder en notre faveur, et 7.23 au 5.1 au 11. Quelques effets de la justification, V1, étant donc justifié par la foi. Les versets qui suivent décrivent certaines réalités dans la vie de celui qui est justifié en Christ. À cause des conceptions erronées à ce sujet, il est peut-être bien de réaffirmer qu'un homme n'est pas justifié par la foi avant qu'elle ne le conduise à l'obéissance, mais par une foi manifestée dans l'obéissance. Hébreux 11 utilise à maintes reprises l'expression par la foi. À chaque fois il s'agit d'une foi qui pousse le croyant à faire quelque chose. Notre délivrance du péché par la foi comporte la soumission à l'ordre du baptême, Galates 26 mars 2027, aussi bien que l'ordre de la repentance et de la confession ou déclaration publique de notre foi en Christ. Étant justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Puisque nous avons été pardonnés et donc rendus justes aux yeux de Dieu, la condamnation et la colère divine qui pesaient sur nous sont enlevées. En plus, nous avons abandonné notre rébellion contre Dieu. La paix peut ainsi régner entre Dieu et nous. V2, c'est au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes endettés pour l'accès que nous avons à cette grâce. Dieu est bien gracieux dans sa nature, mais sa sainteté et sa justice ne lui auraient pas permis de nous accorder le pardon sans que le péché ne soit expié, et cela n'a pu se faire que par l'œuvre de Jésus sur la croix. Nous avons donc accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous devons continuer dans la grâce de Dieu. Nous restons dans la faveur de Dieu si nous continuons de nous y confier et de marcher dans la foi. Si nous ne demeurons pas fermes, nous aurons reçu la grâce de Dieu en vain, 2 Corinthiens 6.1, nous serons privés de sa grâce, Hébreux 12.15. En plus de la paix, nous avons l'espérance en tant que justifiés. Nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de voir Dieu dans toute sa gloire, 1 Jean 3.1 ou 3, l'espérance d'être rendu semblable à lui, 2 Pierre 1.4, l'espérance d'un corps glorifié, Philippiens 3.21, 1 Corinthiens 15.42 ou, l'espérance d'entendre ses paroles d'approbation à notre égard, Matthieu 25.21, 34 à 36, tout cela fait notre joie. V3, nous glorifions même des afflictions. 31 Romains 5 des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, 4 la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance 5 or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le croyant ne se réjouit pas seulement dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais il se réjouit aussi de la tribulation, des épreuves et des afflictions, Jacques 1.2 au 3. Nous ne nous réjouissons pas des souffrances elles-mêmes, car elles sont pénibles et difficiles à supporter, mais nous réjouissons de l'effet qu'elles produisent. Toutes nos épreuves ont été prévues dans le plan de Dieu notre Père, pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. Doyle que de nombreux passages parlent de la joie du chrétien dans les souffrances, Matthieu 5.10 au 12, Actes 5.41, 16.23 au 1 Pierre 4.12 au 16. Quel est l'effet de l'affliction? Elle produit la persévérance ou la patience, la qualité de celui qui continue malgré les difficultés, qui n'abandonne pas la course, qui garde sa confiance en Dieu. L'athlète s'entraîne en s'efforçant de continuer même quand il est fatigué, au fur et à mesure qu'il s'efforce dans son entraînement, il croit dans sa force physique et sa capacité d'endurer les exigences de son sport. De même, le caractère moral de l'homme ne peut pas se développer sans occasion d'endurer les épreuves. Face aux épreuves, on ne doit ni murmurer ni chercher à les éviter ou les faire passer plus vite par des compromis de la volonté de Dieu. En les supportant patiemment, on n'accuse pas Dieu injustement et l'on ne s'irrite pas contre son prochain, Galates 5.15. V4, la persévérance, à son tour, produit la victoire dans l'épreuve ou l'approbation de celui qui nous éprouve. Sachant qu'avec l'aide de Dieu nous traversons les épreuves avec succès, notre espérance est fortifiée. Vs 5 à 8, l'espérance ne trompe pas. Elle n'est pas vaine, elle ne nous décevra pas. Elle est fondée sur l'amour de Dieu pour nous. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul montre que notre espérance a une base solide. L'appui solide qui la soutient, c'est la certitude de l'amour de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit nous rend conscients de l'amour de Dieu par la parole de Dieu, car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5.6 au 8, nous parvenons à la certitude de l'amour de Dieu par notre connaissance et notre compréhension du contenu de l'Évangile. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu à part l'Évangile et notre méditation sur son sens et foi en sa réalité. Nous contemplons la croix et raisonnons ainsi, Christ est mort pour moi lorsque j'étais sans force et sans espoir. Cela veut dire que Dieu m'aime. Nous y réfléchissons et nous disons, il serait difficile de trouver quelqu'un qui mourrait pour un homme de bien. Quelqu'un le ferait peut-être, mais Christ est mort pour moi lorsque je n'étais ni juste ni bon. Je suis certain de l'amour de Dieu. Ceci est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous a été donnée, dit Paul. Quelle est donc la preuve que l'Esprit a œuvré en moi et qu'il est si car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, c'est à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien 8 mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous 9 à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère 10 car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa présence dans ma vie. C'est un sang de l'amour de Dieu. Harvey Floyd, le Saint-Esprit, est-il pour moi? L'amour que Dieu a pour moi est devenu une réalité dans mon cœur depuis que l'Esprit me l'a fait connaître au moyen de l'Évangile. J'ai non seulement le message de ce porteur de bonnes nouvelles, mais sa présence même puisqu'il m'a été donné. V6, nous étions sans force. Nous étions totalement incapables de nous libérer du péché. Christ, au temps marqué, est mort. La mort de Christ n'était pas un accident, un hasard, un plan B dans la pensée de Dieu. Certains prémillénaristes, qui enseignent l'établissement d'un royaume physique du Christ sur la terre, royaume qui durera pendant 1000 ans juste avant, ou juste après, selon la version de la théorie, son retour, maintiennent que le Christ vint établir son royaume lors de son premier avènement, mais qu'il en fut empêché par les Juifs qui l'ont fait mourir au lieu de le recevoir comme Messie. N'ayant pas pu accomplir son but, il aurait établi l'Église en attendant de revenir pour essayer de nouveau. Cette idée s'effondre sur des versets tels que Romains 5.6 et Galates 4.4, 5. La mort du Christ fut prévue pour un moment précis dans l'histoire. Il est intéressant de noter que le moment choisi n'aurait su être plus favorable, la langue grecque, une langue très précise et sophistiquée, se parlait à travers le monde connu, l'Empire romain avait imposé sa Pax Romana, une paix universelle qui favorisait non seulement le commerce mais la dissémination rapide de nouvelles idées, un système routier construit par le gouvernement romain facilitait le transport, les Juifs, qui avaient une connaissance de Dieu et de sa révélation passée, étaient dispersés à travers l'Empire et au-delà de ses frontières, etc. V7, certains font une distinction entre un juste et un homme de bien, celui-là étant un homme intègre selon la loi mais qui n'inspire pas forcément de la sympathie, et celui-ci étant un homme marqué par l'amour, la miséricorde, et la bonté. Il me semble plutôt que les mots sont utilisés comme synonymes. Paul affirme qu'il serait improbable que quelqu'un donne sa vie même pour un homme digne, mais il admet la possibilité. V8 Mais aux yeux de Dieu nous étions tous des pécheurs, des hommes qu'il ne pourrait considérer ni justes ni bons. Voyant que nous n'avions mérité aucun effort de la part de Dieu pour notre salut, nous comprenons que la mort de Christ devient la preuve définitive de l'amour de Dieu. Il eut pitié de nous et fit le sacrifice suprême. Il n'a pas attendu que l'homme devienne digne, ni même que l'homme cherche à être digne. Il offre son amour le premier, ce qui devrait pousser l'homme à l'aimer en retour, Jean 12.32, 33. 1 Jean 4.10, 19. Vs 9.10, nous avons été justifiés par le sang de Christ. Étant justifiés, nous ne sommes plus condamnables devant Dieu, nous ne sommes plus des ennemis. Nous étions des objets légitimes de la colère quand Dieu livra son Fils unique à la mort pour nous racheter. S'il a fait cela pour nous, ne nous sauvera-t-il pas de la colère du jour du jugement, nous qui sommes vivants et non seulement cela, Mais encore nous nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous nous avons obtenu la réconciliation. 12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché l'a déjà pardonné, il a déjà investi pour notre rachat le sang de son Fils, nous devenons ainsi d'autant plus précieux pour lui. Le Christ a déjà subi ce qui était le plus difficile, la souffrance de la croix, étant ressuscité il n'hésitera pas à faire ce qui est plus facile, continuer d'intercéder pour nous. V11, nous nous glorifions de l'espérance et de l'affliction, et non seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu. Ce n'est pas seulement ce que Dieu nous a donné qui nous réjouit, mais c'est aussi qui il est, et ce qu'il est. Nous trouvons notre joie dans le Dieu que nous servons. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, Jérémie 9.23, 24.